Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinée. Bonjour à tous, bonne écoute sur Art District Radio, il est 10h30 et on retrouve Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil. Alors Stéphane, une jolie bande dessinée que je vois sur la table.
Absolument, Julie, bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour Julie.
Bonjour Stéphane.
On est effectivement dans Bulle d'Histoire, on reçoit aujourd'hui un dessinateur, on a reçu beaucoup de scénaristes, et là un dessinateur, David François.
Bonjour.
Bonjour.
Qui est l'auteur d'un, je pense, une des plus belles bandes dessinées de cette rentrée. Intelligente, magnifiquement dessinée, magnifiquement coloriée, plus que colorisée. Avant d'avancer dans l'histoire de Chaplin en Amérique, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes? C'est la question rituelle en fait.
Je suis donc dessinateur de bandes dessinées depuis maintenant presque 15 ans, je dirais. Le livre en question, c'est mon 6e ou 7e, je n'ai pas tenu les comptes non plus exactement.
Depuis 15 ans, mais vous avez une particularité qui se rencontre, mais pas très très souvent, vous êtes autodidacte. Comment on passe de, je ne sais pas ce que vous faisiez avant, mais à dessinateur de bande dessinée et en étant autodidacte, c'est quelque chose qui me fascine.
Il y a beaucoup d'autodidactes en fait en bande dessinée. Je fais partie de ces auteurs autodidactes effectivement. Donc en fait c'est pas voilà, autodidacte, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire apprendre par soi-même. C'est-à-dire que moi j'ai eu un goût prononcé pour la bande dessinée dès mon adolescence. J'en ai eu énormément, et puis naturellement, j'avais quelques prédispositions au dessin, on va dire, et je me suis dit, c'est exactement ce que tu dois et ce que tu veux faire, donc c'est en ça que je m'estime d'ailleurs vraiment auteur de bande dessinée, non pas illustrateur, parce que j'ai vraiment, tous mes efforts jusqu'à maintenant, étaient orientés vraiment pour faire de la bande dessinée, c'est-à-dire raconter une histoire avec des images qui se suivent les unes les autres, et contrairement à l'illustration où cette fois-ci on a une image qui raconte quelque chose, là moi ce que je voulais vraiment c'était ce côté écriture qu'on retrouvait dans le dessin.
C'est une série d'albums, je crois qu'il va y en avoir deux ou trois.
Trois.
Exactement. Qui raconte l'arrivée de Charlie Chaplin en Amérique et les années où il va devenir Charlot. Comment vous avez découvert cette histoire? Comment vous êtes entré dedans? Comment vous la proposez? Est-ce que vous avez hésité, pas hésité?
Alors pour repréciser juste une petite chose, Chaplin en Amérique, c'est vraiment le titre du premier album. C'est-à-dire que sur les trois albums qu'on va réaliser avec Laurent Sexic, on va vraiment balayer toute sa vie. Vraiment.
C'est pas ce que m'a dit l'attaché de presse, c'est
pas ça. Eh ben en fait si. Enfin, quasiment toute sa vie en fait. Là effectivement le premier tome se consacre véritablement à son arrivée aux États-Unis et son ascension en tant que star du cinéma muet, et donc star mondiale. Donc en gros vraiment de ses débuts à la Dickens à Londres, qu'on présente de manière ponctuelle, enfin un peu saupoudré dans l'album sous forme de flashback. Mais l'album démarre effectivement à son arrivée aux États-Unis. Et les chemins qu'il va prendre et qu'on va lui proposer pour arriver là où il en est à la fin de ce premier tome, c'est-à-dire quelqu'un de reconnu mondialement en tant qu'artiste de cinéma.
Moi, je connaissais mal la vie de Charlie Chaplin. On s'aperçoit que c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé qui croit en lui plus que tout, quasiment.
Oui, mais je crois que ça, c'est un trait de caractère inhérent à toutes les personnes qui veulent qu'un objectif bien précis en tête. Et notamment, pour moi, ça a encore plus de sens quand c'est un objectif artistique, un épanouissement artistique ou littéraire. Quand je dis artistique, c'est vraiment au sens large du terme. Si on n'a pas cette exigence-là, on peut que difficilement atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, surtout quand on a... Comme Chaplin, une exigence énorme et des ambitions dévorantes, forcément qu'on est véritablement déterminé.
Ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il fait du cinéma un peu par hasard. Parce que lui, c'est un acteur de théâtre, de musical.
Tout à fait. Il est même mime. À la base, il est mime. Et encore une fois, comme beaucoup de carrières artistiques, il y a beaucoup de rencontres un peu impromptues, de chemins qui se présentent, qu'on n'avait peut-être pas imaginé initialement. Et on se retrouve parfois à évoluer dans des... domaines ou dans des médiums qui ne sont pas spécialement ceux qu'on avait initialement en tête, oui.
Donc il rencontre Max Sennett.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Max Sennett ? Parce que c'est quelqu'un de très important dans l'histoire du cinéma.
C'était un des, si je dis pas de bêtises, attention, un des premiers producteurs de cinéma à Hollywood, en fait. Et un des plus gros de cette époque-là. Et donc, qui tournait énormément de films. Donc, comme tous ce type de personnes, de personnages, sont des gens qui ont plus ou moins des antennes partout et qui vont forcément chercher la pépite et puis la future étoile, entre guillemets.
Qu'est-ce que Max Sennett a remarqué chez Chaplin qui fait qu'il va le faire venir de New York dans les studios de l'autre côté de l'Amérique ?
Il remarque véritablement le côté, le potentiel humoristique du jeu de Chaplin, en fait. Chaplin arrive aux États-Unis avec la troupe Carnot, qui est une troupe londonienne, qui vient de tourner aux États-Unis en 1912-1913. Et le spectacle est vite, comme on dit, descendu par la critique. Mais quelques articles pointent qu'il y a dans la troupe un comédien qui vaut vraiment le coup. Et il se trouve que c'est Charlie Chaplin. Donc voilà, après, bouche à oreille, quelqu'un qui était là pour Max Sennett, ou même Max Sennett directement, repère ce talent et lui propose justement de travailler pour lui.
Donc dans l'album, c'est l'arrivée de Chaplin dans le monde du cinéma est bien racontée, c'est pas simple, hein, il ne devient pas star tout de suite.
Ah non, du tout.
D'ailleurs, on le fait venir, il ne travaille même pas, il est juste, on ne sait même pas très bien pourquoi il vient, parce qu'il vit dans un hôtel et il attend.
Mais il attend, parce qu'en fait, après que Max Sennett l'ait effectivement sollicité, il se retrouve ça c'est véridique, à errer sur les studios sur les plateaux de tournage dans les studios Max Sennett, désœuvré. Voilà.
Alors comment les choses commencent ? Qu'est-ce qui fait qu'il va commencer à devenir un acteur de cinéma ?
Bon alors, du coup, on raconte un petit peu le livre, mais en fait, il y a un moment donné où une scène que Max Sennett n'arrive pas à tourner parce que ça manque de rythme, ça manque d'humour, il manque quelque chose, il manque un élément, lui le voit, dans sa tête, il se rappelle qu'il a fait venir quand même de New York, parce que la tournée initialement prévue pour la troupe Carnot se déroulait à New York. Il dit, moi, j'ai quand même fait venir quelqu'un de cette troupe-là pour son potentiel humoristique, comique. Et donc il lui demande de choisir un costume et de passer devant de faire le pitre en fait, devant la caméra en fait. Et à partir de là, ça fonctionne tout de suite, aussi bien par rapport aux équipes qui sont là et auprès du public. Donc forcément, derrière ça, un deuxième rôle, un troisième rôle, et ainsi de suite.
Est-ce que l'histoire du costume de Charlot, c'est la vraie histoire, ou est-ce que c'est une invention du scénariste ? Je dis pas comment elle se passe.
Non, en fait, il existe plusieurs versions, apparemment, ce que Laurent Sexy m'avait raconté, et ce que j'ai pu lire aussi de mon côté. Il existe plusieurs versions de la manière dont Charlie Chaplin a créé le costume de Charlot, effectivement, et même lui s'amusait à en raconter une différente à chaque fois qu'on lui posait la question. Donc Laurent a choisi celle qui avait encore une fois le potentiel le plus drôle et le plus touchant, parce que dans ce qu'on montre, il y a un peu une sorte de hasard, voilà, c'est une séquence qui est assez belle en fait, hein, en plus.
Oui, absolument. Ce que j'ai trouvé ainsi extrêmement intéressant, c'est que les personnes, vous singez pas les personnages, c'est pas des caricatures au plus proche. Chaplin, c'est qu'on le reconnaît pas forcément parce qu'on n'a pas cette image-là, peut-être qu'on le voit. Parce qu'on le voit sans moustache.
Tout à fait.
Et je trouve que ça fait partie du charme de l'album, de savoir que c'est Chaplin, mais sans le voir.
Alors ça, c'est lié à plusieurs choses. Premièrement, c'est lié à la manière dont Laurent a de s'accaparer ce type de personnage, donc ces grands hommes. Moi, j'avais été vraiment bluffé et très touché à la lecture de deux de ses romans en particulier, qui sont Les Derniers Jours de Stefan Zweig et Le Cas Edward Manstein, parce qu'il arrive à s'immiscer dans la peau de ces grands hommes pour nous les présenter, comme si ces hommes-là étaient à côté de nous, en fait. Mais c'est lui qui est aux manettes de tout ça, et c'est d'ailleurs une des choses qui m'a définitivement convaincu de faire ce livre avec Laurent, c'est que on tombait pas justement dans une biographie à proprement parler très trop historique en fait. Et du coup, Laurent m'explique ce qu'il veut montrer de Charlie Chaplin, là où lui va prendre possession en fait du personnage. Et je dis bien personnage parce que pour le coup, on s'est retrouvé à créer un personnage de bande dessinée. On n'a pas recréé Charlie Chaplin tel qu'il existait, puisque effectivement, ses caractéristiques physiques sont pas celles d'un portraitiste absolu, mais en même temps les traits de caractère, les traits graphiques que je lui ai donnés sont vraiment venus de la description que Laurent m'a faite de ce qu'il voulait montrer du personnage, et puis en même temps sa manière de bouger pour le coup qui vient peut-être plus de mon côté, où on retrouve un petit peu Charlot. Voilà, c'est vraiment une sorte de personnage hybride entre Charlot que tout le monde connaît, l'icône, et Charlie Chaplin que effectivement moins de personnes connaissent, étant donné que quand on dit Chaplin, hein, tout de suite l'image, la première image qu'on a, c'est Charlot, c'est-à-dire le chapeau melon, la canne et la moustache.
Une autre chose qui est extrêmement séduisante et qui est presque envoûtante dans votre façon de dessiner, c'est qu'on a en tête l'univers visuel de Chaplin, de Charlot, on a en tête l'univers visuel du cinéma muet, qu'on retrouve dans votre façon de dessiner, mais en même temps on est absolument ailleurs. Comment, quand on est dessinateur, on réussit presque le tour de force de rentrer dans cet univers et de le tordre, de le modeler à sa façon ?
Tout premièrement, je pense que ça vient déjà de mes influences, moi, en tant que dessinateur, c'est-à-dire les peintres, illustrateurs, auteurs de bandes dessinées qui me touchent. J'ai beaucoup de sensibilité pour les gens qui dessinent de manière assez vive. Il faut que le dessin bouge, il faut qu'il respire, qu'il raconte quelque chose, même rien que par le trait, en fait. Tout ce qui va être plus figé, je ressens rien du tout à lire une bande dessinée trop figée ou voir un illustrateur. Voilà. Et puis, à côté de ça, il y a aussi ma manière d'aborder la retranscription d'une époque. Je suis pas un dessinateur réaliste au sens propre du terme, c'est-à-dire le réalisme photographique tel qu'on l'entend en général quand on parle de dessin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt que le lecteur ait une impression de crédibilité. Il faut qu'il se sente dans l'époque, qu'il se sente dans l'ambiance. Et donc ça vient de moi, de le travail documentaire que j'ai fait en amont, c'est-à-dire les photographies, les films, les séries télé, dans lesquelles j'ai immergé. Sous des photos et des séries télé ou des films qui se passent à cette époque-là, pas spécialement dans le cinéma pour Chaplin, ça peut être tout autre chose, hein, mais qui retranscrivent cette époque-là. Et à partir de là, moi, j'en fais une interprétation et la plus crédible possible qui soit, en fait.
Oui, parce que c'est à la fois très romanesque, c'est une véritable histoire,
tout
et
à fait.
En même temps, c'est très documentaire, très documenté. Il y a les costumes, les décors,
oui.
J'allais dire les voitures, tout ce qui fait que on vit vraiment avec Chaplin juste à côté de lui, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la manière d'écrire de Laurent, premièrement, parce que c'est par rapport au texte, c'est vraiment ça. Et ensuite, c'est ma façon de moi d'immerger le lecteur. Voilà, par exemple, s'il manque une fenêtre sur un building connu, pour moi, c'est pas un souci. Il y a une séquence au tout début où on voit un paquebot qui survole Times Square. C'est pas le Times Square de 1912 exactement. Par contre, tout le monde a reconnu Times Square, en fait.
Il y a d'autres très très belles séquences qui sont les séquences de la vie des parents de Chaplin.
Oui, les flashbacks.
Qui sont des flashbacks qui sont traités en grisaille, en fait.
Oui, une sorte de bichromie, tout à fait.
Ça aussi, c'est la véritable histoire de Chaplin, c'est assez terrible, en fait.
Ah, mais c'est, tout ce qui est raconté dans le livre est vrai, complètement vrai. Il y a juste la manière dont nous, on va le montrer ou le raconter qui va soit ajouter de la sensibilité, de l'émotion ou de la dureté selon le propos. Et voilà.
J'ai une question, je ne sais pas si vous avez la réponse. La carrière de Chaplin va débuter en gros parce qu'il ne veut pas être dirigé par une femme. Pour faire court. Hein.
Oui, pour faire court.
Est-ce que c'est vrai et pourquoi il ne veut pas être dirigé par Mabel ?
Alors, pour ça, c'est vrai, effectivement. Pourquoi, ça c'est des choses qu'on va développer dans les albums qui vont venir, parce que Laurent veut traiter la relation que Chaplin a eue aux femmes. Donc voilà, ce sont toutes des choses qui sont aussi en partie liées à la mère. Voilà, c'est tout ce qu'on va raconter dans la suite.
Oui, parce que les femmes ont déjà beaucoup d'importance, enfin à la fin.
Oui, tout à fait.
Puisque ça se termine quasiment sur une scène de prison fictive.
De prison fictive, tout à fait.
Donc va-t-il se marier ou pas, on le saura après. Pour terminer, moi j'avais une anecdote personnelle, c'est que cet été, par hasard, j'ai une fille de 10 ans et on a vu des films de Charlie Chaplin. Il y avait d'autres enfants et ils étaient absolument morts de rire. C'est un comique qui marche instantanément et qui, 100 ans après, oui, 100 ans après,
oui, 100
ans quasiment.
Après,
quoi.
Oui. Quasiment 100 ans après, oui. Mais c'est quelque chose qui est immortel, pour le coup, c'est vraiment... Pourquoi c'est universel, ça durera toujours, en fait, ça durera toujours. Et c'est ce côté absolu aussi, qui, à mon avis, a énormément plu à Laurent dans le personnage de Charlie Chaplin. cette destinée, cette trace du coup qu'il va laisser ad vitam aeternam.
On s'est presque tout dit, et en se quittant là-dessus, voilà, j'espère que votre album va aussi rester vitam aeternam, je ne sais pas, mais en tout cas, j'invite les auditeurs, les auditrices à se ruer dans chez leur libraire dans 2 jours, parce que c'est un véritable chef-d'œuvre, quoi. Voilà. Je ne le dis pas forcément souvent, mais c'est magnifique.
Eh bien, merci beaucoup.
Alors, ce chef-d'œuvre, donc, s'appelle Chaplin en Amérique, je le rappelle, avec le scénario de Laurent Seksik, hein, qui est romancier par ailleurs, et au dessin, vous-même, David François, et c'est donc un album qu'on peut retrouver aux éditions Rue de Sèvres pour 17 euros. Moi, je tenais à préciser que ça tombe très bien, cette sortie d'album, parce qu'il y a une actualité folle sur Charlie Chaplin, qui va bientôt débuter, hein, avec une grande exposition. Charlie Chaplin, l'homme orchestre à la Philharmonie de Paris, à partir du 11 octobre. Et puis le Musée des Arts de Nantes va consacrer également, à partir du 18 octobre, une exposition Charlie Chaplin dans l'œil des avant-gardes, où c'est une sorte de relecture de l'œuvre cinématographique de Charlie Chaplin en parallèle des arts, de l'art moderne du début du XXe siècle. Voilà, donc vous êtes vraiment dans l'actualité.
Ah bon, pour le coup, c'est véritablement un hasard.
Ah bon?
Oui, tout à fait.
Bah, bien joué alors.
Aucunement calculé.
Bon, alors en tout cas, ça tombe très bien. Et donc, comme vous l'avez annoncé, il y en aura d'autres en plus. Hein.
Voilà, encore 2.
Voilà, donc à découvrir en parallèle de ces grandes expositions, puisque en fait, Charlie Chaplin est né en 1889. Donc je pense qu'il y a aussi 2019 qui est une année un peu... Milestone, pour Charlie Chaplin, donc une œuvre à redécouvrir. Et puis bon, Charlie Chaplin, évidemment, qui est aujourd'hui rentré dans les grandes figures, les grandes icônes de l'histoire. Ça manquait peut-être du coup une BD sur
en bande dessinée, de la manière dont on l'a traité de nous sur un sujet autobiographique, ça manquait peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas nous on est très fiers d'avoir fait ce livre de cette manière-là et dans ce médium-là, donc la bande dessinée.
Ouais. Merci beaucoup David François d'être venu dans cette émission Bulle d'Histoire. Merci Stéphane.
Eh bien merci Julie.
Et puis
merci à vous.
À la prochaine, bien sûr.
À la prochaine.
Merci beaucoup. Au revoir.
Bulle d'Histoire. Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh.
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.